Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Orange.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale, émission aujourd'hui consacrée au mécanisme monétaire très particulier qui unit 14 pays d'Afrique à la France et à l'Europe, le franc CFA. Il faut 655 francs CFA, 96 et des poussières, pour acheter 1 euro. C'est une valeur intangible qui n'est pas soumise aux variations du marché d'échange. Et c'est une partie du débat qui a démarré depuis de longs mois et qui gagne peu à peu en intensité. Ce débat oppose ceux qui ne veulent plus de la formule actuelle, à l'instar de Carlos Lopez, qui était jusqu'à ces derniers mois à la tête de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.
Je dis que le mécanisme est désuet, mais pas nécessairement que le franc CFA ne doit pas exister. Les caractéristiques actuelles ne sont pas de nature à répondre à la dynamique de croissance qui puisse éventuellement favoriser les membres de la zone, que ce soit en Afrique occidentale ou aussi en Afrique centrale.
Dans l'autre camp, celui des partisans du statu quo, on trouve au premier chef les gouverneurs des banques centrales qui gèrent le franc CFA. Par exemple, Luka Abagan-Chama, le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale.
Quand vous regardez bien, le taux d'inflation dans certains pays atteint 17 à 30%. Ils ne sont pas dans le CFA. Des pays, par exemple, exportateurs du pétrole, nous maintenons le pouvoir d'achat malgré la crise. La CEMAC est arrimée aux chances fixes. La CEMAC exporte du pétrole. La CEMAC subit la crise. Les effets sont moins importants que dans d'autres pays où aujourd'hui l'inflation a explosé.
Ces deux déclarations ne résument pas à elles seules, loin s'en faut, le débat. Au cours de cette émission, nous verrons comment fonctionne ce franc CFA et quelle est son histoire. Nous nous demanderons si c'est un facteur de stabilité pour les 14 économies qui l'utilisent ou si c'est un obstacle au développement de ces pays. Nous parlerons aussi, dans la deuxième partie de l'émission, de l'impact que peut avoir l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis sur ce débat. Tout cela avec les trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Kako Nubuko.
Bonjour.
Kako Nubuko, vous êtes économiste, vous avez été ministre de la prospective du Togo, votre pays natal. Vous êtes aujourd'hui à la tête du département économie et numérique de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes l'un des principaux animateurs du débat sur le franc CFA et l'un des coordonnateurs du livre collectif intitulé « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire ». À qui profite le franc CFA, paru aux éditions La Dispute. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre votre position très critique sur le franc CFA et le fait d'être un des dirigeants de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, Kako Nubuko ?
Non, justement, c'est comme si vous me disiez que le fait d'être européen devait interdire de critiquer le fonctionnement de la zone euro.
Mais là, vous n'êtes pas seulement un citoyen parmi d'autres, vous êtes un des piliers de cette organisation internationale de la francophonie.
Oui, parce que la francophonie, comme je le dis souvent, ce n'est pas l'extension du domaine de l'Empire. C'est le fait de reconnaître que nous avons un héritage en partage, cette belle langue qu'est le français, et que dans cet espace francophone, nous devrions œuvrer pour une prospérité partagée.
Alors face à vous, Kako Nubuko, pour débattre, deux interlocuteurs. Bonjour Gilles Dufresneau.
Bonjour.
Gilles Dufresneau, vous êtes professeur d'économie à l'Université Aix-Marseille. Vous êtes également chercheur associé au CEPI, un des principaux centres de recherche économique en France. Vous avez été conseiller à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Et la CEDEAO. La gestion du franc CFA était à l'époque votre pain quotidien?
Alors, j'étais à la commission de l'UMOA et c'est vrai que la question du franc CFA n'était pas nécessairement le sujet prioritaire, même si on y réfléchissait. Vous savez que cette question du franc CFA, moi je suis très attaché aux arguments économiques qui légitiment cette zone. C'est vrai qu'elle a également un symbole politique et que parfois c'est considéré comme un sujet tabou Et je trouve ça vraiment dommage.
Alors avec Kako Nubukwo, nous avons ici le grand dynamiteur de ce tabou, mais je termine ce tour de table par vous, Étienne Giros, bonjour.
Bonjour.
Étienne Giros, vous êtes le président délégué du CIAN, le Conseil des investisseurs français en Afrique. Le franc CFA, c'est un avantage pour les entreprises françaises en Afrique face à la concurrence internationale ou pas?
On verra que ça dépend si elles sont exportatrices ou importatrices. Mais globalement quand même, comme disait quelqu'un de célèbre dans le temps, je pense que le bilan est globalement positif. Et quand on a été comme moi en charge d'entreprise, j'ai eu à gérer... pour un grand groupe, le groupe Bolloré, pour pas le nommer, dans 1994, la dévaluation du franc CFA dans les 14 pays concernés. Et
on y reviendra.
J'ai touché du doigt ce que ça voulait dire sur le terrain.
Alors, au cours de cette émission des reportages, évidemment, nous irons rejoindre Frédéric Gara à Abidjan et Charlotte Cossé à Kampala. Des sons d'archives également, grâce à la Sonothèque de RFI. Kako Nubukwo, à qui profite le franc CFA?
Il faut lire l'ouvrage. Je ne voudrais pas tuer le suspense dès le début de l'émission. Mais globalement, l'idée, c'est de se dire qu'il y a une élite, essentiellement africaine d'ailleurs, qui profite des avantages du CFA, notamment la capacité à faire partir les capitaux de la zone franc vers la zone euro, sans coût quasiment, et finalement tout ce que nous aimerions en termes de réinvestissement des profits générés au sein de la zone, tout ça n'est pas fait. Il y a aussi la classe moyenne urbaine.
Expliquez par quel mécanisme cette classe dirigeante africaine fait, selon vous, évader ses capitaux en quelque sorte?
Oui, vous savez, le CFA, c'est quatre choses. Il y a la parité fixe entre le CFA et l'euro. Mais il y a aussi la garantie de convertibilité entre le CFA et l'euro, la libre circulation de capitaux entre la zone franc et la zone euro, et la centralisation des réserves de change. Donc, quand vous avez un taux de change fixe, que vous avez la garantie de convertibilité, que vous avez la capacité de faire partir librement les capitaux...
Il n'y a aucun contrôle.
Il n'y a pas de contrôle. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez... sans trop de difficultés, rapatrier vos capitaux de la zone franc vers la zone euro. Je vous donne un exemple. La Guinée équatoriale. Quand vous prenez le revenu national brut de la Guinée équatoriale, c'est-à-dire une fois qu'on a payé la propriété du capital, ce revenu, ce n'est plus que la moitié du PIB annuel de la Guinée équatoriale. C'est-à-dire que la moitié de la richesse produite chaque année en Guinée équatoriale sort de façon tout à fait licite, légale, pour rémunérer le capital qui n'appartient pas aux équato-guinéens. Donc l'équato-guinéen moyen va avoir beaucoup d'activités dans son pays, mais sera toujours étonné de voir que dans son panier, rien ne change. Mais il y a aussi la classe moyenne urbaine de la zone franc, à laquelle moi personnellement j'appartiens, qui bénéficie de ce CFA, parce qu'il y a une incitation à importer, parce que c'est une monnaie qui est sûre. Et moins d'incitation peut-être à produire sur place les biens consommés. Et donc, je crois que l'élite france-africaine profite du CFA au détriment des petits producteurs ruraux qui, eux, n'ont pas tous les avantages liés à cette monnaie.
Pourtant, il y a eu depuis des années des déclarations, des combats, des politiques pour lutter contre l'évasion fiscale, contre l'évasion de capitaux dans les pays africains. Vous pensez que l'existence de ce franc CFA met en échec toutes ces politiques?
Non, ce que je pense simplement, c'est que actuellement, nous avons ce que j'appelle une superposition des discours en Afrique, zone franc. Le discours macroéconomique est très orthodoxe. Assainissement des finances publiques, politique monétaire rigoureuse. Mais le discours mésoéconomique, le discours sectoriel est très volontariste. On dit qu'on veut transformer la matière première sur place, comme les Asiatiques. Et le discours microéconomique, il est onusien. On veut atteindre les ODD, les objectifs du développement durable. Mais on ne travaille pas suffisamment la cohérence entre ces trois niveaux de discours. Donc, je crois que tout est dans la cohérence dynamique de ces trois niveaux de discours. Et là, on peut voir jusqu'où on peut transformer certaines matières premières sur place sans remettre en cause les acquis liés aux réserves qu'on obtient lorsqu'on exporte la matière première et jusqu'où on peut créer des emplois sur place. Et je crois que c'est quelque chose de très important, arriver à gérer la cohérence d'ensemble des politiques publiques.
Alors, Étienne Giros, vous dirigez le Sian, vous représentez les entreprises françaises. Le mécanisme que décrit Kakono Bukpo, c'est très avantageux pour des investisseurs étrangers comme les Français en Afrique, qui peuvent rapatrier les bénéfices quand ils en font sans problème.
Oui, d'abord, dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu moins facile que ce qu'explique Kako, parce que quand même la transférabilité des fonds, elle est certes reconnue par les textes, mais dans la pratique, c'est quand même long et les procédures sont un petit peu compliquées. Mais enfin, je suis d'accord qu'elle existe. Plutôt que de rapatrier les fonds, moi je vois surtout un avantage, c'est que ça permet d'investir. Moi je représente l'entreprise française investie en Afrique. Elles ne vont pas aller, ou plus difficilement, aller faire un investissement de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros pour construire une usine, acheter une raffinerie, faire une cimenterie ou autre, ou une industrie de transformation qu'on appelle tous de nos voeux, s'il y a une incertitude monétaire qui fait que quand ils auront investi 100 millions d'euros, dans deux ans, les 100 millions d'euros peuvent valoir 50. Et que deuxièmement, leur revenu sera en monnaie faible, qui se dévalueront alors qu'ils auront investi une monnaie dure. Donc ça, c'est un frein à l'investissement. Donc, je suis d'accord avec Kako pour dire que c'est un sujet complexe. Et loin de moi l'idée de dire que le franc CFA, c'est la panacée, il n'y a aucun problème. S'il y a un problème, on pourra y revenir. Mais moi, mon avis est que le franc CFA, c'est pas le fait qu'il ait les caractéristiques qui ont été rappelées, c'est-à-dire que ce soit une monnaie unique rattachée à l'euro. Le problème, c'est son taux de change. C'est que s'il est rattaché à une monnaie chère, à une monnaie forte, et est-ce qu'il faut une monnaie forte pour gérer le développement de l'Afrique? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. On verra les solutions qui existent. Je pense qu'il en existe. Il faut peut-être pas mettre tout le système par terre. Il faut peut-être le faire évoluer.
Gilles Dufresneau, comment est-ce que vous vous situez dans ce débat, dans cette proposition que fait Kakono Bukpo, qui est de dire que le franc CFA est trop facilement rapatriable? En gros, les bénéfices, les investissements faits en Afrique sont trop facilement rapatriables vers les pays développés, vers les pays d'où viennent ces investissements.
Ah, écoutez, moi je pense que la question du franc CFA doit être abordée dans tous ses aspects. Peut-être, moi je crois qu'il y a quatre questions importantes. On parle ici de monnaie, donc la question c'est, il y a une première question importante qui est la manière dont on va utiliser la politique monétaire pour le développement de ces pays. Moi je suis très surpris de noter qu'on parle souvent de l'inflation, on parle souvent de la croissance. On a affaire à des pays qui sont des pays pauvres, et la question fondamentale c'est la question du développement. Donc première question...
Peut-être, Gilles Dufresneau, je vous arrête là. Est-ce qu'on pourrait rappeler ces 14 pays qui ont le franc CFA pour monnaie?
Oui, donc il y a les pays du franc CFA d'Afrique de l'Ouest, donc les pays de l'UEMOA, donc vous avez...
La Côte d'Ivoire, le Mali,
voilà,
etc.
Voilà, tout à fait. Et puis vous avez également les pays de la CEMAC, de l'Afrique centrale, qui sont membres de la CEMAC, dont un grand nombre sont exportateurs de pétrole. Bon. Donc, le rôle de la politique monétaire dans le développement, on n'en dit pas suffisamment. Pourquoi ? Parce que c'est très important. Il n'y a pas simplement des questions de rapatriement de capitaux. Hein. Quand des entreprises locales africaines ont besoin d'emprunter, elles vont emprunter cet argent auprès des banques. Et donc, il y a deux choses qui sont importantes. C'est le canal du taux d'intérêt, quel taux d'intérêt on leur applique. Et deuxièmement, est-ce que ces entreprises font face à un rationnement du crédit ou pas ? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que les pays de la zone CFA doivent garder une monnaie commune ? À mon sens, incontestablement, oui. Et maintenant, quel est le régime monétaire qui est le plus adapté, qui correspond le plus à leur situation ? Est-ce qu'ils doivent laisser la monnaie flotter ? Est-ce qu'ils doivent prendre un taux de change fixe ? Est-ce qu'il faut le rattacher uniquement à l'euro ? Ou est-ce qu'il faut pas diversifier le panier, les paniers de monnaie ? Donc ça, c'est la deuxième question qui me semble fondamentale. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que, alors là, ça concerne tous les pays africains, c'est fondamentalement, quel est le problème de ces pays ? La contrainte extérieure. La contrainte extérieure, parce que vous êtes en
c'est
économie.
C'est quoi la contrainte?
Alors la contrainte extérieure, c'est le fait que vous êtes en économie ouverte, vous importez, vous avez des dettes à rembourser, et donc vous devez avoir des réserves de change pour faire ça, sinon vous n'avez pas de problème. Le système actuel, que dit-il? Il dit simplement que lorsque les pays de la zone CFA se trouveraient dans une difficulté de balance de paiement, c'est-à-dire n'auraient pas de réserves, eh bien le trésor français, donc ce n'est même pas ni la zone euro, ni la Banque de France, le Trésor français peut de façon provisoire, jouer en quelque sorte le rôle de prêteur en dernier ressort. Bon. Donc, je crois qu'il y a des discussions. Je crois que c'est un aspect qu'il faut discuter.
Bon, alors, Gilles Dufresneau va faire une remontée historique, un rappel historique sur l'histoire de ce franc CFA. L'un des faits marquants de son histoire, ça a été la dévaluation au mois de janvier 1994. On fait une petite remontée sonore dans cette histoire-là.
Notre inquiétude, c'est que aujourd'hui, il y a une dévaluation de 50%, c'est beaucoup. Nous aurions souhaité que ça soit moins que ça. Parce que demain, il n'y a rien qui nous prouve qu'on ne va pas demander encore, n'est-ce pas, la dévaluation du franc CFA.
L'ajustement externe a été décidé dans le but de restaurer la compétitivité de l'économie africaine tout en cherchant à maîtriser, et c'est là l'essentiel, les risques d'inflation qu'une telle mesure pouvait engendrer.
Ce réaménagement ne saurait être considéré comme une catastrophe si nous savons gérer notre économie. Cependant, il est évident que je ne tolérerai pas l'action déstabilisatrice des spéculateurs.
Je voulais indiquer que ça permettait notamment à la Côte d'Ivoire d'augmenter, de gagner plus de compétitivité, donc d'augmenter ses chances d'exportation sur l'extérieur. Vous savez, nous sommes l'un des pays relativement industrialisés dans la zone africaine. Nous avons donc des capacités d'exportation importantes, plus de 400 milliards de francs CFA par an. Donc nous pourrions donc avoir des ressources plus importantes.
Il faut assurer le redémarrage des économies africaines. La marginalisation économique de l'Afrique a longtemps été considérée comme une évolution inéluctable. Il n'en était rien.
Alors, vous aurez reconnu successivement les présidents Yadema, Chirac, Patassé, les premiers ministres Kablan Duncan et Balladur, tous en poste à l'époque de cette dévaluation. Kakon Boukpo, comment intégrez-vous cette dévaluation dans votre critique du CFA?
Oui, il faut se rappeler, ce qui s'est passé, c'est que les 5 ou 6 années qui ont précédé la dévaluation, nous étions dans ce qui était convenu d'appeler l'ajustement réel. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas toucher à la monnaie, mais assainir les finances publiques. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que on a réduit les salaires, mais à un moment donné, on ne peut pas donner 0 franc CFA aux travailleurs. On a essayé de compresser les budgets. Du coup, il n'y avait plus de politique publique volontariste. Et l'ajustement réel ayant échoué, bon, c'est ce qui se passe en Grèce hein, aujourd'hui, pour faire vite, et l'ajustement réel ayant échoué, on était obligé de passer à la dévaluation du CFA. Seulement, ça a été brutal, 50%. Et une des leçons qu'on peut en tirer, là pour le coup, c'est que, à mon avis, il faudrait une monnaie un peu plus flexible. Ce qui fait que même s'il devait y avoir des ajustements, qu'ils puissent être moins douloureux que ce qu'on a connu en 94.
Monsieur Giros,
juste un témoignage. Oui. Dévaluation de 1994, le 14 janvier, je crois que c'est la date.
Le 11.
Les Africains, le 11.
Oui.
Alors le 12 au matin, puisque ça a eu lieu la nuit, le 12 au matin, les Africains sont retrouvés avec un pouvoir d'achat, et nous, on l'a vécu tous, ici, autour de cette table, un pouvoir d'achat amputé, non pas de 50%, parce qu'ils n'apportaient pas 50% de leur consommation, mais la classe aisée, mais aussi moyenne et populaire, pour acheter des livres, acheter de l'essence, leur voiture, etc., ou leur consommation un peu importée, le lait, la nourriture, 50% de pouvoir d'achat en moins, en une minute. Donc ça a quand même un rôle et un impact très fort.
Ce qui plaide pour peut-être une modération dans ces mouvements, dans ces décisions. Nous poursuivons en tout cas cette discussion dans la deuxième partie de cette émission après un flash d'actualité. Je vous dis à tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Oh, oh,
ah. Retrouvez Écho d'ici, écho d'ailleurs, après le Flash Info avec Orange Monnaie. Orange. Oh, oh, ah. Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Écho d'ici, écho d'ailleurs. Orange.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale, aujourd'hui consacrée au destin du franc CFA, un franc CFA qui fait de plus en plus débat. Dans ce studio de RFI, pour en parler, trois invités, Kako Nubukpo, ancien ministre de la prospective du Togo, coordonnateur du livre « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire à qui profite le franc CFA » paru aux éditions La Dispute, Gilles Dufresneau, professeur d'économie à l'université Aix-Marseille, et Étienne Giros, président délégué du CIAN, le Conseil des investisseurs français en Afrique noire. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons entendu votre point de vue critique, Kako Nubukpo. Nous avons évoqué la dévaluation du franc CFA. Je voudrais revenir sur un fait d'actualité avant de continuer à parler plus avant du franc CFA. C'est l'élection de Donald Trump qui menace d'impliquer les États-Unis dans une politique beaucoup plus isolationniste. Est-ce que vous ne pensez pas que ce fait-là, à partir du mois de janvier prochain, devrait pousser les pays africains et la zone euro à resserrer leurs liens au lieu de les distendre dans une réforme peut-être aventureuse du franc CFA?
Je crois que nous vivons des temps absolument passionnants. Après le Brexit, on a l'élection de Trump. Il y a une leçon, me semble-t-il, à tirer. C'est que ceux qui appartiennent au cercle de la raison, ceux qui promeuvent les politiques néolibérales depuis 40 ans, il faut bien qu'ils se rendent compte que ces politiques laissent sur le bord du chemin de plus en plus de personnes.
Mais vous assimilez franc CFA et politique libérale.
Ah oui, mais c'est le même principe. Le fait de dire que la monnaie ne doit pas être mise au service de la croissance, le fait de dire que les finances publiques ne doivent avoir comme seul objectif que l'équilibre budgétaire, fait que nous n'avons plus de levier pour piloter les chocs que les économies ressentent. Et donc, ce qui se passe, c'est que le chômage devient la variable d'ajustement du système économique mondial.
Donc, pour vous, l'élection de Trump, c'est un argument de plus vers la réforme du franc CFA et pas un argument de moins?
Ah oui, pour moi, l'élection de Trump veut dire simplement qu'il y a un écart de plus en plus abyssal entre la légalité qui est portée par les dispositifs constitutionnels et la légitimité, c'est-à-dire la capacité pour les leaders à être perçus par les populations comme étant capables de régler leurs problèmes quotidiens. Et donc je crois que malheureusement, nous perdons de plus en plus de populations qui pensent que les leaders politiques n'arrivent pas à gérer leurs problèmes. Et pour l'Afrique, c'est simple. Vous voyez le nombre de pirogues qui quittent l'Afrique pour essayer d'arriver en Europe. Tous ces jeunes Africains qui veulent fuir la misère, il faut bien leur trouver sur place des politiques publiques inclusives. Et donc pour moi, c'est la même logique. Le Brexit, l'élection de Trump et demain peut-être une crise massive en Afrique liée à notre incapacité à anticiper les mouvements de fond.
Gilles Dufresneau, vous en pensez quoi, vous? Cette élection de Trump, c'est un facteur de plus ou de moins pour réformer ou abolir le franc CFA?
Alors moi, je dirais qu'on parle beaucoup de la réforme monétaire sans l'intégrer dans quelque chose qui est beaucoup plus global, qui est de penser quelle stratégie de développement on va mettre en place à l'échelle régionale pour que les pays s'en sortent. C'est uniquement dans ce sens-là que toute programmation monétaire, toute réforme monétaire aurait du sens. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, principalement parce que, à mon sens, le débat est confisqué. Mais là, si je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de suggérer, le fait que l'Europe et l'Afrique devraient renforcer les liens, il faut quand même se rendre compte que ces liens existent et qu'ils sont asymétriques. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les accords de partenariat économique, qui sont des accords commerciaux qui sont supposés renforcer, donc avoir remplacé les anciens accords
de Lomé et de Cotonou,
qui sont supposés renforcer les liens commerciaux entre les pays d'Afrique et les pays et l'Europe. Ces accords, ils existent, mais ils sont dissymétriques. Pourquoi est-ce qu'ils sont dissymétriques? Parce que ils peuvent empêcher, je dis pas qu'ils vont le faire, mais ils peuvent empêcher l'émergence d'une industrie, l'émergence de secteurs d'activité qui sont différents du secteur agricole. On sait que un des principaux problèmes aujourd'hui des pays d'Afrique, c'est l'absence de diversification des économies. C'est le fait que ces pays, principalement, sont exportateurs de matières premières. Juste pour dire quelques mots, pour rebondir sur l'histoire de la dévaluation,
On dit souvent que avoir une monnaie forte empêche les pays d'avoir la compétitivité prix. Et je suis désolé, quand vous avez une économie qui n'est pas diversifiée, que vous exportez principalement des produits agricoles, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que une monnaie forte ou pas ne joue pas parce que vous exportez des produits dont les prix sont fixés en dollars. Pas par vous, par la communauté internationale.
Vous voulez dire que la dévaluation du franc CFA qu'on a évoquée au début n'a servi à rien?
À mon sens, la dévaluation du franc CFA n'a servi absolument à rien, sauf à une seule chose, c'est à redéfinir la profitabilité des entreprises. Ça veut dire que et là, pour le coup, c'est un peu paradoxal, ouais. C'est que avoir une monnaie forte, c'est bon pour la profitabilité des entreprises. Mais en termes de compétitivité, les effets se sont dilués très rapidement.
Revenons à Trump, Étienne Giros, et à la question initiale que je posais. Est-ce que cette élection de Trump, c'est un facteur de plus ou de moins qui milite en faveur ou contre le franc CFA?
Il faut voir, à mon sens, ce qu'elle traduit, cette élection. Et comme le Brexit, d'ailleurs, je pense qu'elle traduit une peur. Une peur d'une partie de plus en plus large des populations, du déclassement, de leur propre déclassement. Et d'ailleurs, on peut aussi ajouter la digitalisation. Tout ça étendu à la mondialisation beaucoup plus, Caco, qu'aux politiques d'ajustement structurel. Nous vivons dans une période de mondialisation. On peut être pour, on peut être contre. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut surtout le constater parce qu'on n'y peut pas grand-chose. Il y a donc l'émergence de nouveaux acteurs, les Chinois et autres. Et beaucoup de zones du monde se sentent inquiètes sur leur avenir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on va encore produire? Est-ce que nos prix, nos protections sociales vont baisser, etc. Donc ça, c'est une peur du déclassement.
Et alors le
CFA,
du coup,
ça se traduit par une opposition aux élites, ou plus exactement, aux politiques prônées par les élites. Voilà ce qui se passe. Alors donc maintenant, on va voir Trump qui va arriver. Il va probablement développer une politique isolationniste des États-Unis, ça c'est certain. Et bien après, il va très vite, au plan international et économique, être attrapé par la réalité, me semble-t-il. Et donc je pense que dans ce contexte-là, le CFA, il faut plutôt pas le toucher, parce qu'il traduit d'abord une régionalisation entre les pays, une certaine stabilité et une proximité avec l'Europe. C'est pas au moment où le dollar et où Trump va entrer dans une politique isolationniste qu'il faudrait abandonner le CFA pour dollariser ces économies-là. Donc je pense qu'il faut plutôt tenir bon.
Alors on va voir ça au fil de cette seconde partie de notre émission. Un fait épatant, c'est l'ancrage du franc CFA dans les habitudes des consommateurs de cette zone depuis plusieurs générations. Exemple en Côte d'Ivoire, locomotive économique de la zone UEMOA, avec ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Frédéric Gara à Abidjan.
En Côte d'Ivoire, le franc CFA, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas on fait avec. Pour Jean-Baptiste Coffi, président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, les avantages et les inconvénients de cette monnaie unique, plutôt solide sur les coûts internationaux, se valent.
Bon, c'est vrai que la parité fixe nous aide quand même à maintenir un peu l'inflation. Parce que imaginez-vous que les produits importés changeaient de valeur tous les jours sur le marché. Déjà que nous décrions le coût, le niveau général des prix dans notre pays, mais je crois que ça allait en ajouter encore à nos souffrances. On sait que les prix fluctuent sur le marché, mais pas au même rythme que si on n'avait pas cette parité-là.
Jean-Louis Billon, ministre ivoirien du Commerce, est plutôt favorable à une monnaie unique comme celle ayant cours dans la zone UEMOA.
D'abord, on peut l'utiliser dans 8 pays. Ensuite, elle permet d'avoir une stabilité qui est sans pareil par rapport aux autres pays. Quand on compare au Ghana voisin qui aujourd'hui a une monnaie qui se déprécie très vite, le franc CFA est incontestablement un avantage. La Côte d'Ivoire a connu une crise pendant 10 ans et pourtant le CFA s'est maintenu parce que les autres pays de la zone étaient forts. Donc il y a un lissage qui se fait et qui permet cette stabilité que nulle part ailleurs en Afrique on pourrait connaître en cas de crise de ce genre.
Un franc CFA fort permet donc de contrôler l'inflation dans des pays qui importent beaucoup de produits de consommation courante. Il permet aussi de faire des affaires au niveau du commerce transfrontalier. Marie et Marie-Louise, commerçantes à Grand Bassam, vont faire leurs courses de l'autre côté de la frontière, au Ghana, où tissus, produits cosmétiques, accessoires de mode sont d'autant moins chers que le CEDI, la monnaie ghanéenne, est basse par rapport au franc CFA.
C'est intéressant. Ça dépend des avantages qu'on a là-bas. Et ce n'est pas les intérêts beaucoup. Surtout quand il sait que tu es ivoirien, c'est que le CFA est pour nous, que le CDIS, donc le CFA les intéresse beaucoup. Donc c'est parce que le CFA est plus intéressant que les monnaies qui cherchent toujours à avoir le CFA.
Pourquoi? Parce que c'est pour eux, c'est plus avantageux?
Parce qu'ils se disent que le franc CFA est plus élevé par rapport au CDIS. Mais attention, quand le dollar monte, le CDI monte. Quand le dollar descend, le CDI descend. mais ils préfèrent toujours le CFA, le CDI.
Un reportage signé Frédéric Gara Abidjan. Gilles Dufresneau, contrairement à ce que dit Kako Nubuko, on voit bien que le CFA bénéficie à la population puisque son niveau lui permet aux commerçantes qui transfrontalières de tirer avantage de la faiblesse des monnaies voisines.
Oui, Gilles Dufresneau. Oui, au niveau microéconomique, oui, avoir un euro fort par rapport à d'autres monnaies africaines, c'est bien sûr, c'est un avantage. Bon, maintenant, la question, c'est au niveau, si on regarde à un niveau un petit peu plus global, c'est-à-dire les implications sur la croissance et le développement prix globalement, alors peut-être que là les effets sont plus mitigés. Mais je voudrais juste dire quelque chose, c'est que si le CFA, si vous voulez, rencontre autant d'échos auprès des commerçants, etc., bon, c'est parce qu'on a confiance dans la monnaie, donc ça c'est quelque chose qui est important. Et donc, qu'est-ce qui donne confiance dans le franc CFA? Un, c'est sa durée. C'est une monnaie qui existe depuis
70 ans.
Donc, c'est une monnaie qui est, sa durée dans le temps. La deuxième chose, quand même, je crois que les gens se disent que le fait qu'il y ait cette garantie apportée par le Trésor, psychologiquement, ça donne l'assurance que bon, il peut pas y avoir de catastrophe. Maintenant, la question importante, c'est qui doit apporter la garantie? Vous avez des pays où vous avez des accords qui sont passés entre les banques centrales. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait un trésor qui est derrière. Des accords qui sont passés avec le trésor américain qui garantit que si vous n'avez pas de réserve, la réserve fédérale américaine pourra vous avancer des dollars.
Quel pays, par exemple?
À peu près tous les pays du monde. Vous avez ce qu'on appelle les accords de swap entre les banques centrales. L'autre possibilité, c'est de dire on pourrait considérer que pour renforcer encore plus la confiance dans le franc CFA, eh bien, elle soit adossé pas simplement à l'euro, mais un petit peu aussi au yuan, un petit peu au dollar,
Donc un panier de monnaie.
Plutôt un panier de monnaie qui reflèterait davantage la diversité des partenariats commerciaux qui existent entre les pays de la zone et puis le reste du monde.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'avenir du franc CFA avec trois invités. Gilles Dufresneau qui avait le micro à l'instant, Étienne Giros et Kako Nubuko, auquel je donne la parole maintenant. Vous vouliez réagir au propos de Gilles Dufresneau et à ce reportage de Frédéric Gara.
Oui, c'est simplement pour dire que la stabilité dont nous parlons, elle est assez illusoire parce que le CFA ne fluctue pas vis-à-vis de l'euro, mais l'euro fluctue vis-à-vis du dollar et donc le CFA fluctue vis-à-vis du dollar. Donc c'est simplement que les fluctuations du CFA ne sont pas liées à la conjoncture interne à la zone franc, mais à la conjoncture de la zone ancre, notamment la zone euro. Deuxième chose, c'est que nous sommes dans une zone de déflation. Les gens parlent des bienfaits de la faible inflation, mais moi, quand j'étudie le taux d'inflation sous-jacente, c'est-à-dire une fois qu'on extirpe les éléments de volatilité, en fait, le taux d'inflation est structurellement nul en zone franc. Par rapport au financement dont on a parlé tout à l'heure, c'est très grave parce que ça veut dire que les taux d'intérêt réels sont à deux chiffres. Les taux d'intérêt nominaux sont autour de 12-13%.
C'est-à-dire ce que les gens payent.
Ce que les gens payent. Mais quand vous avez des taux d'inflation nuls en même temps, vous avez des taux d'intérêt réels à deux chiffres. Ce qui fait que structurellement, pour des économies qui croissent à 5, 6 ou 7%, en moyenne, vous ne pouvez pas rembourser vos emprunts. C'est ce que ça veut dire. Donc, cette stabilité, on a envie de dire à qui elle profite. Moi, je ne pense pas que ce soit...
C'est la question que je vous posais au début de l'émission.
Exactement. Donc, je ne pense pas que le système actuel profite à la majorité.
Alors, Kako Nubuko, pour que les choses soient très claires, le système idéal pour vous dans cette zone CFA, ce serait quoi? Éliminer le CFA ou éliminer les liens entre le CFA et la...
Non, c'est ce que Étienne et Gilles suggèrent. C'est d'avoir un franc CFA rattaché à un panier de devises qui tienne compte des évolutions du commerce entre la zone et le reste du monde et qui tienne compte aussi du choc brutal qu'a été la dévaluation de 94. Parce que ce qui va se passer, je vous le prédis, dans les 2 ans à venir, si les cours du pétrole restent aussi bas qu'à l'heure actuelle, c'est une prochaine dévaluation du CFA. Regardez les pays de la zone CEMAC. Moi, j'ai étudié leurs réserves de change. Elles ont baissé de 13 points de pourcentage sur un an. Ça veut dire que bientôt, on ne parlera plus de réserves massives auprès du Trésor français, mais d'absence de réserves. Ce qui fait que si demain on devait dévaluer le CFA parce que les pays de la zone CEMAT ne sont plus capables d'assurer la garantie de cette monnaie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Côte d'Ivoire, qui elle se porte plutôt bien, va accepter une nouvelle dévaluation du CFA? Donc que devient la zone? Est-ce qu'on va éclater? Donc vous voyez, l'idée aujourd'hui, c'est moins peut-être avoir une lecture du passé pour dire c'est bon ou c'était pas bon, plus que d'avoir une lecture du futur pour dire de façon prospective, attention, il se prépare des choses, nous devons être prêts en tirant les enseignements de la dévaluation de 94.
Étienne Giros, comment réagissez-vous?
Alors l'avenir, je pense qu'il faut d'abord être attaché à des grands principes. Le premier, c'est qu'il faut garder l'idée de régionalisation et de monnaie commune. C'est pas au moment où nous, en Europe, on met des décennies à essayer de construire l'euro, où les pays de l'Est africain réfléchissent à construire une monnaie commune, qu'on va tout démanteler en Afrique de l'Ouest. Ce serait vraiment, à mes yeux, du gâchis. Donc première idée, garder une monnaie commune. Deuxième idée, garder la convertibilité. Je vous dis que pour le bien-être des populations, pour le développement, c'est-à-dire qu'on peut changer à un taux de change fixe, ou en tout cas qui n'est pas trop variable, c'est-à-dire qui ne donne pas lieu à des dévaluations de 20, 30, 40%. Ça, c'est très important, taux de change fixe. Et troisièmement, donc, la convertibilité, c'est-à-dire qu'on est garanti de changer sa monnaie. Qu'est-ce qui se passe dans les pays? Il faut bien voir ça, il faut le dire, je crois, il faut dire la vérité. Dans les pays, notamment d'Afrique, mais pas que, qui ne sont pas avec ces règles-là, avec une monnaie commune, etc., ils ont leur monnaie propre, qui se dévalue fortement selon les cas, et à ce moment-là, on assiste à une dollarisation de l'économie. C'est-à-dire qu'en réalité, les véritables transactions se font en dollars ou quelquefois en euros, ou, comme c'était expliqué pour le Ghana, en CEDI, ou en France CFA, pardon. Et donc, on voit bien que les économies, d'une manière naturelle, se raccrochent toujours à des monnaies fortes. Donc c'est une illusion de croire qu'en jetant le CFA à la poubelle, on va prendre une monnaie individuelle à chaque fois. Alors maintenant, quelles sont les pistes de progrès? Ça peut être le panier de monnaie, comme ça a été suggéré. Et le deuxième sujet qu'on peut mettre sur la table, d'ailleurs les ministres des Finances l'ont dit, la garantie de convertibilité est actuellement apportée par le Trésor français. On peut faire autrement. Ça n'est aucun trésor, ça n'est pas un trésor qui apporte la garantie pour l'euro, par exemple. C'est une banque centrale. Ça n'est pas obligé que ce soit le Trésor français. Et ça, ça donne une connotation politique.
Concrètement, ça veut dire quoi que la garantie de convertibilité est assurée par le Trésor français?
Eh bien, ça veut dire que quand un pays africain de la zone franc a besoin de devises, il peut tirer sur le Trésor français qui va lui fournir les devises, moyennant évidemment un certain dépôt en garantie au Trésor français, qui est le fameux compte de réserve, qui est assez critiqué. Il faut bien comprendre à quoi ça sert. Mais c'est ça que ça veut dire. Le Trésor français garantit la convertibilité du franc CFA. Voilà. Et donc, ça peut être une autre instance qui le fait, car ça donne une image politique qui est quelquefois mal comprise.
Étienne Tirose, vous parliez à l'instant de la zone des pays d'Afrique de l'Est qui sont en train de réfléchir à une monnaie commune. Ils ont en ce moment chacun leur monnaie, ces pays d'Afrique de l'Est, et ils souffrent parfois de la dollarisation de leurs économies, c'est-à-dire du recours croissant aux billets verts par les consommateurs. Exemple en Ouganda, avec ce reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Charlotte Cosset à Kampala.
Rachid regarde les taux de change sur l'écran de son ordinateur. Des petits bureaux comme celui-ci, il y en a des dizaines à Kampala. Un bon business, selon lui.
Ici, nous achetons et revendons des dollars. C'est un très bon commerce, on fait du profit. Pour nous, il n'y a pas vraiment de meilleur moment, car on ne fait jamais de pertes. Par exemple, actuellement, on achète un dollar pour 3462 shillings ougandais. S'il tombe à 3400, par exemple, je vais faire une perte de 60 shillings par dollar. Donc les gens vont attendre pour changer. Et moi aussi, je ne vais pas vendre à ce taux s'il n'est pas plus élevé. Sinon, je suis perdant.
En Ouganda, le taux de change ne concerne pas que les touristes, car le pays utilise deux monnaies, le dollar et le shilling ougandais, ce qui a des impacts sur des dépenses du quotidien, telles que le loyer, comme l'explique Martin.
La plupart des propriétaires à Kampala aimeraient être payés en dollars. Ils font partie de ceux qui ont de l'argent, mais ils ne veulent pas de shilling ougandais parce que cette monnaie n'a pas de valeur pour ce qu'ils souhaitent faire avec. Personnellement, je ne suis pas d'accord pour que le loyer soit payé en dollars. Je pense qu'il devrait être payé en shilling et que cela devrait être illégal. Pour moi, en changeant mes shillings en dollars, je perds et je perds de manière significative.
Le café est le premier produit exporté en Ouganda. Il représente plus de 400 millions de dollars. L'utilisation de deux monnaies divise les acteurs du secteur et les plus touchés, ce sont les fermiers, comme l'explique Ronald Agaba de la Fédération ougandaise du café.
Les exportateurs ont un accès illimité pour surveiller le marché, même au niveau international. Et ce sont les exportateurs qui, dans le même temps, expliquent ces questions aux fermiers. Donc, en un sens, ils peuvent manipuler l'information. Les fermiers ne sont pas au courant de ces questions de monnaie. Donc les personnes les plus affectées sont les acteurs les plus importants.
Conscient de la fragilité économique que crée l'utilisation de cette double devise, l'Ouganda travaille au projet de monnaie unique de la communauté est-africaine.
Gilles Dufresneau, cette tentative que fait la communauté est-africaine de créer une monnaie unique, c'est une réflexion à laquelle devraient participer ou dont devraient s'inspirer les pays de la zone franc qui ont le CFA en partage ?
Oui, absolument. Alors, les pays d'Afrique de l'Est ont un avantage sur les pays de la zone franc, c'est que un certain nombre d'entre eux font partie de ce qu'on appelle les marchés financiers frontières. C'est-à-dire que le niveau de développement de leurs marchés financiers correspond à peu près à celui des économies asiatiques dans les années 90. Et donc, ça, c'est très bien parce que ça veut dire que, premièrement, la politique monétaire sera très efficace parce que vous avez des marchés financiers qui sont développés, parce que ça améliore les canaux de transmission de cette politique. Et puis, deuxièmement, ça veut dire que les effets bénéfiques sont un peu plus importants. Alors, juste pour dire quelque chose, c'est que ce qui est envisagé sera un peu différent de ce qui se passe dans la zone franc. On parle beaucoup du taux de change fixe. Alors actuellement, la plupart de ces pays, en dehors de l'Ouganda dont on vient d'entendre partie de la dollarisation, donc un cas extrême de taux de change fixe, la plupart des autres pays ont un taux de change flottant, et c'est très bien le taux de change flottant. Donc vous pouvez avoir une monnaie unique avec un taux de change qui est flottant par rapport au dollar, à condition de contrôler le flottement. Donc il ne s'agit pas de laisser la monnaie fluctuer.
Si je comprends bien, c'est ce que vous proposez pour le CFA.
Moi, c'est ce que je suggérais pour le franc CFA. Pourquoi ?
Au contraire d'Étienne Giraud,
Je suis désolé, mais l'avantage, donc ça s'appelle avoir un flottement administré. Ça veut dire que vous pouvez être tout à fait attaché à un panier de devises, mais vous vous autorisez, parce que quand les chocs sont violents, justement, si vous avez, une récession mondiale qui est importante, bon, rien ne vous empêche de laisser votre monnaie. Donc, il ne s'agit pas de dévaluer. Rien n'empêche de laisser la monnaie se déprécier toute seule pour rééquilibrer un petit peu la balance commerciale. Et c'est ce que vont faire les pays d'Afrique de l'Est. En passant, ce sont des pays qui ont des taux de croissance qui sont bien plus élevés que ceux de la zone CFA et qui ont des taux d'inflation qui sont pas nécessairement plus élevés. Donc, pour moi, ça peut être un modèle.
Kakonoboko, vous êtes d'accord avec cette interprétation ? Le franc CFA était un obstacle au développement de cette zone ?
Je suis d'accord avec ce que dit Gilles, parce que ça participe à notre volonté d'avoir des marges de manœuvre plus grandes en matière de politique monétaire pour répondre aux fluctuations cycliques. Mais un élément additionnel sur lequel j'insiste souvent, mais qui n'est pas entendu, c'est le fédéralisme budgétaire, c'est-à-dire une plus grande solidarité budgétaire entre les pays de la zone franc. Parce que c'est les deux jambes, hein, la monnaie et le budget.
Mais le franc CFA, ça a été un obstacle au développement des pays.
Disons que le franc CFA a un effet anesthésiant pour des économies qui n'ont pas fait les réformes structurelles. Et donc, c'est une sorte d'effet pervers. La garantie pouvait servir de filet de sécurité pour oser dans le sens de la transformation structurelle des économies. Et elle n'a pas servi, cette garantie. Et donc, la question, c'est comment on fait dès lors que ces incitations ne semblent pas être les bonnes incitations. Donc, nous cherchons tous, en fait. Et ça me permet de revenir un peu sur l'ouvrage. Une seconde. Notre idée n'est pas de dire que nous avons raison. Notre idée, c'est de dire que le débat sur la monnaie ne doit pas être tabou. C'est simplement ça.
Ben on voit bien, grâce à cette émission en particulier, que ce débat ne l'est pas, et grâce à votre livre, Kakonoboko. Étienne Giraud, pour une dernière intervention dans cette émission.
Oui, juste, obstacle ou pas obstacle, il faut être très clair pour les auditeurs.
Obstacle au développement.
Oui, obstacle au développement, ouais. Le CFA, oui ou non. Le franc CFA, et tel qu'il est structuré aujourd'hui, il dessert les exportations des pays africains. Et donc, il freine l'industrialisation de l'Afrique, puisque c'est une monnaie qui est assise sur une devise forte. ça rend les exportations africaines plus chères. D'un autre côté, il facilite la vie quotidienne des Africains. Il faut le dire. Et donc, si on va dans d'autres voies, c'est exactement à l'inverse de ce que je viens d'expliquer. Donc, on peut deviner à peu près les conséquences. Deuxième chose, après j'en aurai fini, je pense que l'avenir, et je suis d'accord au fond avec Gilles, c'est peut-être d'appuyer cela, cette nouvelle monnaie, sur un panier de monnaie plutôt qu'uniquement sur l'euro, de manière à gommer l'effet de monnaie forte qu'est l'euro. Mais je pense qu'il faut néanmoins garder un taux de change fixe, non plus sur l'euro, mais sur un panier de monnaie. Mais un taux de change fixe, parce que c'est très important pour la stabilité de l'économie et donc les investissements.
Merci à vous trois, Étienne Giraud, Gilles Dufresneau, Kakonu Bukpo, d'avoir participé à cette émission qui était réalisée par Guillaume Munier. Je rappelle les références du livre dont nous avons parlé au long de cette émission, « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire », qui est publié aux éditions La Dispute. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous a proposé Écho d'ici, écho d'ailleurs. Orange.